travailleurs de l'ombre, présenté par Simon Bulbaudin et réalisé par Thomas Yayani. On parle des métiers du quotidien tous les derniers lundis du mois à 18h. Et c'est sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission pour Radio Campus Paris où nous allons vous parler des métiers dont on ne parle jamais. Aujourd'hui, il sera question d'animation. Les animateurs sont un pilier de l'éducation mais sont généralement invisibilisés. Nous avons donc décidé aujourd'hui de leur faire honneur. On commence cette émission par un reportage réalisé dans la ville de Sannois en banlieue parisienne. Nous nous sommes rendus un mercredi dans l'école Henri Dunant à la rencontre des animateurs périscolaires.
Je m'appelle Marc Barras, je suis chef du service enfants-jeunesse à la ville de Sannois, donc une ville qui fait 27 000 habitants dans le 95 à côté d'Argenteuil. Alors, on accueille en complément de l'école, on fait de l'accueil ce qu'on appelle le périscolaire, donc le matin, le midi et le soir.
On a le chapeau du carnaval comme ce matin. Ceux qui n'ont pas fini l'activité, vous allez la refaire de nouveau.
La continuer,
d'accord. Ensuite, nous avons... Among Us.
Je m'appelle Michael, je suis animateur du coup le mercredi dans le centre Henri Dunant. Et en semaine à Jules Ferry, l'école primaire qui est juste à côté. J'ai passé mon BAFA il y a peut-être 6-7 ans maintenant. Au début c'était un petit emploi et au fur et à mesure j'ai pris plaisir dans l'animation et je suis encore là du coup.
Je m'appelle Margot, du coup je suis animatrice en périscolaire, donc je travaille les mercredis, le matin, le midi et le soir, et pendant les vacances scolaires. J'ai été étudiante, quand j'ai arrêté mon bac, je suis partie à la fac, ça ne m'a pas du tout plu. Du coup, mes parents ils m'ont dit, il faut que tu trouves un taf, enfin, tu ne veux pas rester à la maison, donc du coup j'ai postulé à Sannois, et ensuite là je suis passée titulaire.
Les autres, on écoute.
On se met tous dans le fond vert.
Mais pourquoi tu fais ça? Nous, on ne peut pas t'asseoir dans tout le monde, là.
Après, il y a un animateur, il nous touche le dos deux ou trois fois pour dire qu'on est les... imposteurs.
Voilà. Merci.
Et bah après, il nous dit on se met... On prend des plots, on les met...
Je suis Monsieur Ferrari Valentin, je travaille pour la mairie de Sannois en qualité de directeur périscolaire et extrascolaire. C'est vrai qu'on a un fort turnover sur les équipes d'animation, notamment sur les périodes estivales. C'est vraiment les périodes où on a le plus gros turnover. Moi, à titre personnel, c'est pas quelque chose que je vois comme positif. Parce que même si, évidemment, ça donne l'opportunité à certains jeunes de découvrir une première expérience professionnelle, néanmoins, pour moi, être animateur, ça demande vraiment de la formation. Ça demande beaucoup de qualité aussi, ça demande de la résistance physique, ça demande de la réflexion. Et à mon sens, ça ne doit pas être perçu comme un simple job d'été ou un job étudiant. Voilà. Donc, être animateur, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut croire. C'est pas simplement être présent avec les enfants ou c'est pas un simple mode de garde. Il y a toute une réflexion pédagogique éducative qui doit être menée derrière et ça, tout le monde n'a pas cette portée-là et ça peut être un petit peu dommage.
Il y a des grosses contraintes en termes de niveau de diplôme, d'encadrement, etc. etc. Puis on n'est pas toujours en mesure d'assurer des temps éducatifs en fonction du taux d'encadrement qu'on peut assurer parce que c'est un temps qui est assez compliqué à mettre du personnel en face. Et puis sur les autres temps, on a besoin de beaucoup moins de monde. Donc ça veut dire que les contrats qu'on peut proposer ne sont pas très attractifs.
Moi, mon but, c'est de devenir responsable, enfin référente du périscolaire du coup. Donc c'est sûr que ce métier n'est pas facile parce que nos tranches horaires, elles sont super différentes. Ça veut dire qu'on va commencer à 7h30, finir à 8h20, reprendre à 11h20, finir à 13h20. Enfin franchement, c'est super compliqué. Et je peux comprendre qu'il y en a où c'est vraiment... chiant, on va dire. Mais moi, ça me plaît. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas de rentrer chez moi et de revenir après le taf. Et bien sûr que je veux faire carrière. Enfin, je veux devenir référente, passer mon BFD et après travailler à la mairie.
Et vous aussi, vous allez décider sur le chapeau. Parce qu'on a fait le haut, le tour de la tête. Maintenant, on fait la petite bande, d'accord ? Pour faire la hauteur du chapeau. On a les petits traits pour faire les petites bandes qui va coller le chapeau, comme là, ok ? Vous avez vu ? Après, on va coller ici. Donc moi, je couperai ici, mais vous allez faire des magnifiques dessins sur tout ce côté-là. D'accord ?
ma vision des choses, c'est que le périscolaire et le scolaire doivent fonctionner ensemble. Ce sont ces deux éléments-là qui font la journée d'école, et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc il faut absolument qu'il y ait une collaboration, qu'il y ait une cohésion entre les deux équipes, et qu'on forme à la fin vraiment une équipe pédagogique, en fait, sur l'école directement. Donc c'est pas tant vis-à-vis des instituteurs, mais c'est vrai que d'une manière générale, dès qu'il y a un petit souci dans l'école, on aura plus facilement tendance à dire ça vient du périscolaire, c'est le périscolaire, plutôt que de remettre en question le côté éducation nationale. Ça, c'est un fait.
Il y a des parents avec qui on peut le ressentir et d'autres non. Il y en a, ils sont vraiment le soir, ils prennent le temps de discuter avec nous, ils échangent comment ça s'est passé, ils demandent ce qu'on a fait, le comportement des enfants. Ça je respecte beaucoup. Par contre, oui, c'est vrai, par moments, on a l'impression que voilà, ils déposent leur enfant, ils les récupèrent. C'est dommage que les parents sous-estiment, ils ne connaissent pas vraiment à la juste valeur ce travail des animateurs.
Le gouvernement Barnier était sur une économie de 5 milliards sur les collectivités territoriales. Et là, ce que j'ai entendu hier aux infos, on est plutôt sur l'ordre de 2 milliards. Ça a des répercussions sur le budget de fonctionnement des collectivités, puisqu'il y a des dotations globales de fonctionnement versées par l'État. Et donc, à partir de là, c'est une grosse enveloppe qui permet d'équilibrer plus ou moins le budget. Donc, tant qu'il y a cette incertitude-là, voilà, les collectivités sont un peu en réserve sur un budget définitif. On n'a pas d'impact encore fort sur notre budget de fonctionnement, c'est-à-dire le matériel qu'on peut fournir au centre de loisirs, les sorties, etc. Mais voilà, ça se sent, ça arrive un peu à la marge, c'est pas fort, mais on commence à en ressortir les effets là-dessus.
Vini, junior, vini, kien, papé, papé, jouven, gambelli, oréa, tchameni.
Bonjour Jean-Baptiste Cléricot.
Bonjour.
Vous êtes coprésident du CNAJEP, Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire, mais vous êtes aussi directeur général France des CMEA. Bonjour Guillaume Leipzig.
Bonjour.
Vous êtes adjoint à la mairie de Strasbourg, en charge de la vie associative, les animations urbaines et la vie étudiante, mais aussi conseiller eurométropolitain à l'Eurométropole de Strasbourg. Guillaume Leipzig, j'aimerais revenir avec vous sur la dernière phrase de ce reportage. Est-ce que vous êtes aussi confronté dans vos missions à Strasbourg, particulièrement en cette période d'instabilité politique, à des problématiques budgétaires liées aux baisses des dotations versées par l'État ?
De plein fouet, c'est effectivement, alors ça a longtemps été notre principale inquiétude dans le flou actuel où en fait l'État n'a toujours pas de budget et donc les collectivités ne peuvent pas encore en avoir non plus. Donc beaucoup de services ont commencé à avoir des dépenses sans avoir de fonds et maintenant la nouvelle inquiétude qui se rajoute, c'est la fin de certains dispositifs portés ou soutenus par l'État qui ont aussi un impact concret sur l'action des animateurs et des communautés éducatives.
Il se ressent comment cet impact concret directement par rapport à vos administrés ou même aux animateurs que vous employez ?
On est sur des situations où on sait que les métiers de l'animation étaient déjà beaucoup fragilisés, c'est dit dans votre reportage. C'est des métiers qui ne sont pas considérés, pas compris. Le BAFA, ce n'est pas un diplôme, c'est un brevet d'aptitude. Donc, on est déjà sur une quête de sens, une quête de reconnaissance. Des jeunes qui sont aussi très compliqués à connecter et à mettre un peu dans les bonnes dynamiques. Et derrière ça, y a un cercle vicieux qui s'instaure et les parents qui considèrent que souvent le périsco, c'est avant tout un dispositif de garde, alors que beaucoup d'acteurs institutionnels comme associatifs voudraient faire de la pédagogie, voudraient faire de l'éducation populaire, voudraient faire de la transmission de valeurs et pas juste occuper les enfants le temps d'eux, quoi. Et vraiment, on a cette situation en départ et maintenant, elle est gravement amplifiée et on a d'autres inquiétudes, même sur la pérennité ou la sécurité des acteurs liées à ces problèmes de ressources humaines, de finances, en plus de ceux qu'on avait sur la reconnaissance.
Jean-Baptiste Cléricot, vous êtes coprésident de la CNAJEP, une association qui réunit plus de 70 mouvements nationaux de jeunesse et d'éducation populaire. En écoutant ce reportage et en rebondissant sur ce que dit Guillaume Leipzig, est-ce que vous avez des remontées similaires de la part de certains de vos membres par rapport à des difficultés pour les animateurs face à des horaires tranchés par exemple ou plus globalement à une certaine précarisation ?
Alors oui, complètement. Alors votre question, elle m'amène
Je peux l'aborder de différentes manières. Premièrement, la situation actuelle avec une absence de budget de l'État et une difficulté pour toutes les associations de jeunesse et d'éducation populaire pour se lancer dans une activité classique, voire des projets innovants, etc., parce qu'il n'y a pas du tout de vision sur ce que pourrait être l'année, avec pour autant des contrats de travail à assurer, des relations à des usagers, des usagères à stabiliser, des actions citoyennes à conduire, etc., mais également... En dehors de cette situation complètement ubuesque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la question de fond sur comment est-ce que la question de l'animation aujourd'hui est considérée. Et là, je rejoins complètement ce que vient de nous dire Guillaume Leipzig sur la place que peuvent occuper ces métiers-là dans l'environnement. Donc j'ai plutôt l'abordé de cette manière-là parce que je suis complètement d'accord avec ce que vient de nous dire Guillaume il y a quelques instants. Premièrement, on a affaire à un métier qui est complètement déconsidéré. J'en veux pour preuve, les métiers de l'éducation en général sont très très larges. Les enseignants, les travailleurs sociaux, les personnes qui vont travailler dans l'insertion de la jeunesse, etc., etc. Vraiment, les métiers d'éducation offrent une palette très très large. Et régulièrement, quand on travaille dans les contenus de formation initiale de tous ces métiers-là, à un moment donné, il y a un module classique qui est travaillé en formation, qui est celui de l'identité professionnelle. Et c'est un métier, c'est un module très important, parce que pour conduire une action éducative efficace, il faut qu'on ait conscience de l'ensemble du spectre éducatif qu'il y a sur un territoire. Et lorsqu'on rentre dans les métiers, souvent, lorsqu'on travaille sur ce modèle, sur cette identité professionnelle, ce qui est dit très souvent, voire exclusivement, c'est « attention ». Vous, les assistantes sociales et les assistants sociaux, vous n'êtes pas des animateurs. Attention, vous, les enseignants, vous n'êtes pas des animateurs. Attention, là, quand vous allez conduire une séance pédagogique de telle manière, attention à ne pas faire de l'animation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on travaille sur cette question-là de l'identité professionnelle, on prend comme outil de référence l'animation comme étant celui en bas de l'échelle. Et donc, il y a une vraie déconsidération sociale sur ce métier-là, qui pourtant est essentiel pour plusieurs raisons. Il est essentiel, un, parce qu'il amène indéniablement un service aux parents. C'est clair, ça, il amène un service aux parents qui doivent aller travailler. Ça a permis à un moment donné aux femmes de pouvoir travailler, mais aux hommes aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des endroits, des espaces où on pouvait laisser nos enfants en sécurité pour pouvoir aller faire autre chose. Donc il y a cet élément-là, mais il est surtout essentiel, parce qu'on sait, il y a plusieurs études qui ont travaillé sur cette question-là, que ce qui se passe à l'école, se joue en dehors de l'école. Les personnes qui réussissent à l'école sont les personnes qui ont une vie hors l'école très riche et très variée. Donc, il est important que la collectivité nationale et les collectivités territoriales, mais à Strasbourg, ce qui se fait est exemplaire, ce qui n'est pas le cas partout, il est très important que ce qui se passe en dehors de l'école soit travaillé d'une manière éducative suffisamment sérieuse pour pouvoir lutter contre les inégalités sociales face aux loisirs, pour justement réussir à l'école.
Et Guillaume Leipzig, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Baptiste Clérico, et même par rapport à ce qui a été dit dans le reportage, on entendait parler d'un problème de lien entre l'éducation nationale et le périscolaire, et donc d'autres domaines. Et c'est quelque chose contre lequel vous essayez de lutter à la mairie de Strasbourg, ou même que vous portez plus globalement comme engagement politique ?
Alors, on essaie de faire ce qu'on peut sur ce vaste sujet. On sait que historiquement, quand des acteurs de la communauté éducative se regroupent pour faire de la coopération, souvent l'éducation nationale est absente. Il y a eu une phase où elle s'était un peu retirée, bunkérisée. Ça a tendance à s'inverser maintenant sur certains territoires avec les cités éducatives, où c'est vraiment des projets de partenariat, mais c'est vraiment très ciblé. Moi, je me souviens d'une époque où dans le cursus de formation des professeurs à l'IUFM, il y avait le BAFA qui était intégré. Et on créait justement ces liens entre animation, éduc nationale, éduc pop. Ce n'est plus le cas du tout, comme le dit justement Jean-Baptiste, c'est très compartimenté. Et le compartiment de l'animation, il est tout en bas de l'échelle. Et c'est en plus des postes qui sont souvent éclatés en fonction des heures. La communauté éducative, la continuité éducative, elle peut exister s'il y a une unité de temps et de lieu. Si c'est la même personne qui travaille au quotidien avec les mêmes enfants sur le même site et qui crée une relation de confiance, qui crée un dialogue permanent, et ben quand on dit à la personne à 11h tu dois faire la cantine, à 14h tu dois faire le ménage et à 17h tu dois faire du pliage en salle d'activité mais dans l'autre école à l'autre bout du quartier, ça n'est pas possible. Donc nous, ce qu'on essaie de faire déjà, c'est d'arrêter cet éclatement, de stabiliser les personnes pour les intégrer pleinement dans la continuité éducative. Et ensuite, effectivement, On essaie de sécuriser les associations, les centres sociaux, toutes les associations d'éducation populaire par le biais de conventions pluriannuelles d'objectifs où on partage en fait les mêmes besoins, les mêmes envies, et on y travaille sur une vision à moyen terme et pas juste des solutions court-termistes, immédiates, urgentes. Alors après, c'est sans doute une goutte d'eau dans l'océan, parce que ce qu'il faut faire, c'est justement redonner pleinement la considération et la connaissance de ce que sont ces métiers, de ce qu'ils produisent, à quoi ils servent. Et ça passe par un débat autour des conventions collectives, autour des diplômes, autour de la formation. Ça se passe à Paris, dans les ministères. Et on avait réussi avec plusieurs autres grandes villes et l'appui des assos nationales et du COP à solliciter un groupe de députés pour porter ce message. Manque de bol, quelqu'un a dissous l'Assemblée 2 semaines avant qu'on puisse le faire. Et on repart un peu de loin sur ce sujet. Et l'instabilité actuelle ne nous aide pas à avancer sur ces sujets.
En parlant de ça, Jean-Baptiste Cléricot, j'ai vu que vous aviez participé avec la CNAJEP au comité de filière animation qui comprenait un collège jeunesse éducation populaire et dans lequel vous avez fait des propositions et dedans il était question de formation mais aussi de rémunération avec par exemple l'idée de rémunérer les animateurs durant leur temps de préparation des activités. Alors est-ce que cette feuille de route qui date de juin 2023 elle a été prise en compte et est-ce que vous pensez que ça peut bouger sur les rémunérations?
Alors oui, mais juste avant, vous parliez tout à l'heure et Guillaume en a reparlé sur la question de la relation entre l'école et tout ce qu'il y a autour de l'école. Mmh. On est confronté à un paradoxe qu'on dénonce depuis de très très nombreuses années en tant que mouvement pédagogique et en tant qu'association de jeunesse et d'éducation populaire. C'est la dénomination même du ministère. On nous dit que c'est le ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, on a même un code, hein, le code de l'Éducation nationale. Mais lorsqu'on regarde ce code, lorsqu'on regarde quels sont les objets qui sont travaillés au sein de ce ministère, et lorsque nous regardons les budgets très concrètement, ligne par ligne, qui sont fléchés et pilotés par ce ministère-là, nous n'avons pas affaire à un ministère de l'Éducation nationale. Nous avons affaire à un ministère de l'Instruction publique. Et donc, qui met de côté, volontairement ou non, mais en tout cas qui ne travaille pas de manière équitable l'ensemble des temps d'éducation des enfants et de notre jeunesse.
Et ça se ressent, ça, dans les rémunérations?
Mais au-delà, ça se ressent dans les rémunérations et on est confronté à une inégalité et une injustice sociale terrible aujourd'hui en France. Par exemple, un enfant, école primaire, passe 9,80% de son temps de vie d'enfant sur une année face à un enseignant. 9,50%. Ça veut dire qu'il a plus de 90% de son temps de vie d'une année où il n'est pas face à un enseignant. Et c'est un enfant, il a besoin de temps éducatif, et donc ces espaces éducatifs-là, il va les investir. Et là, il va les investir de manière complètement différenciée en fonction de son origine sociale. Si ses parents ont les moyens, il va pouvoir avoir accès à des espaces éducatifs extraordinaires qui vont venir consolider son parcours scolaire. Et lorsqu'il a des parents qui n'ont pas le moyen, ou moins de moyens, eh ben, il est confronté à les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Et on crée de l'inégalité sociale de manière très importante. Donc oui, il faut qu'on ait enfin un vrai ministère de l'Éducation nationale qui prend en compte l'ensemble des temps éducatifs et qui fait des concertations, des ponts, des lieux de coordination avec des enfants. Surtout qu'on s'est rendu compte, on a fait un calcul, un enfant, lorsqu'il arrive en sixième, il a plus de 70 adultes, autres que ses parents et sa famille proche, qui se sont occupés de lui dans son parcours éducatif. Dans ces 70, il y a des enseignants, qui sont à peu près une dizaine. Donc, il a plus de non-enseignants qui se sont occupés de lui. Combien de ces adultes ont réussi à se mettre ensemble autour d'une table pour discuter du parcours de l'avenir de cet enfant? Je reviens après très maintenant, très rapidement, sur votre question sur la question de la rémunération. Effectivement, aujourd'hui, les métiers d'animation sont déconsidérés d'un point de vue économique. Quand on regarde le temps de travail qu'il faut pour préparer le fait que ce sont des métiers compliqués, où il faut jouer, courir, se concentrer, ne pas s'énerver parce qu'on a un groupe d'enfants et qu'il faut en plus, comme on l'avait entendu dans le reportage, qui est un très bon reportage d'ailleurs, tout à l'heure, des animatrices qui viennent 1 heure le matin, puis qui rentrent chez elles, qui reviennent entre midi et deux, puis qui reviennent le soir, etc. Et au final, c'est à peine le SMIC, on ne trouvera pas de personnes qui sont suffisamment motivées pour pouvoir travailler. Donc, un, il faut qu'on réussisse à travailler à l'intérieur des collectivités territoriales, avec d'autres associations, avec d'autres types de métiers, pour faire des métiers plus complexes, qui s'articulent les uns avec les autres pour éviter le temps partiel. Et deux, il faut vraiment retravailler cette question de la rémunération. Et ça passe par un grand plan de réflexion sur qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui en France comme financement de l'éducation. et non pas de l'instruction publique.
On va maintenant marquer une pause musicale avec un morceau de Gentra. Ce claviériste originaire de la région soudanaise de Fachaga n'a pas quitté son pays en guerre et continue de manier les boucles hypnotiques avec maestria. Accompagné de son synthétiseur Yamaha bleu, il transcende les fêtes de la campagne soudanaise. On écoute tout de suite son titre « Jedima ». Jedima du Soudanais Chantra. Le titre est extrait de son seul et unique album Synthetized Sudan, sorti sur le label Ostinato Records.
Pour rebondir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la question d'occuper le temps libre, on sait qu'avant il y avait beaucoup de militantisme, ça a changé actuellement, donc je vous propose d'écouter un extrait de l'interview que nous avons réalisé avec Marc Barras, directeur jeunesse de la ville de Sannois en banlieue parisienne.
On est passé d'une époque où il y avait beaucoup de militantisme, éducation populaire, donc avec à la fois les avantages, c'est-à-dire le dynamisme, l'engouement, et puis l'aspect militant, donc la conviction à quelque chose de plus professionnel qui peut avoir un peu des travers aussi, hein, mais en attendant, ça veut dire que derrière, il y a de la formation plus largement. Enfin voilà, on est sur ce type de phénomène-là.
Alors Jean-Baptiste Cléricault, le CNAJEP et les CMEA ont dans leur ADN l'éducation populaire. Vous êtes d'accord avec ce que dit Marc Barras sur l'évolution et la professionnalisation du secteur de l'animation ?
Oui et non. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on a depuis, on va dire, une trentaine d'années, ça s'est accéléré ces 15 dernières années, une vraie professionnalisation des métiers de l'éducation populaire. Et c'est bien. Et c'était important, et il le fallait, justement pour lutter contre ces inégalités sociales dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'essentiel, et il faut soutenir cette question de la professionnalisation. Là où je ne suis pas complètement... Alors, c'est pas que je ne suis pas en accord, mais je vais amener de la nuance. C'est qu'en fait, lorsqu'on oppose professionnalisation et militantisme, on mélange des choux et des carottes. Quand si on veut opposer à la professionnalisation, c'est pas le militantisme qu'il faut opposer, c'est le bénévolat. Et oui, pendant très longtemps, il y avait eu plein de bénévoles qui s'investissaient dans des actions d'éducation populaire. Puis après, ces bénévoles, ils se sont professionnalisés. Et ils se sont professionnalisés, et donc comme n'importe quel salarié, ils ont droit à des temps de repos, à des négociations salariales, d'avancées, etc. Et c'est normal. Voilà. Mais ce qui ne veut pas dire que des bénévoles et des professionnels ne puissent pas être militants. Le militantisme, c'est une autre composante. Donc, par rapport à ce que nous venons d'entendre dans le reportage, oui, il y a beaucoup moins de bénévoles dans les actions d'éducation populaire qui sont tournées vers la jeunesse. Il y en a plus dans les actions d'éducation populaire qui sont tournées vers l'environnement. Donc en fait, c'est des formes de mutation du bénévolat. Et oui, il y a moins de bénévoles dans les actions d'encadrement de la jeunesse dans l'éducation populaire, parce que ça s'est professionnalisé, et ça, c'est intéressant. Maintenant, il faut qu'on continue de réfléchir sur la question du sens. Ce n'est pas un métier comme les autres, et il faut qu'on continue de travailler sur les conditions de travail de ces animateurs et la manière dont on arrive à travailler avec des bénévoles, parce qu'il n'y a rien de mieux quand on s'intéresse à la jeunesse que d'associer des professionnels et des bénévoles.
Guillaume Lipzig, parmi vos missions, j'ai lu qu'il y avait le développement de l'éducation populaire, en parlant de ça. Comment on met ça en place dans une ville de la taille de Strasbourg ?
Déjà, c'est en ayant les bons interlocuteurs. À titre personnel, je suis issu de l'éducation populaire. Hein. J'ai mon BAFA depuis mes 17 ans. J'étais formateur BAFA, BFD. J'ai travaillé sur l'intégration du handicap. J'ai fait tout mon parcours en milieu associatif. Je ne suis pas encarté dans un parti. Et du coup, je dis souvent, je ne suis pas un politique qui fait de l'associatif, je suis un associatif qui fait de la politique. Derrière ça, il s'avère qu'à Strasbourg, on a un service d'agents et d'agentes qui accompagnent l'éducation populaire, qui, pareil, sont sensibles, et ont eux aussi un parcours, comme le disait Jean-Baptiste, militant. Je rappelle, hein, l'éducation populaire, c'est toujours un peu la tarte à la crème qu'on essaie de la définir. Néanmoins, il y a des grands marqueurs de son ADN, à l'intérieur duquel il y a la transformation de la société. Et c'est ça aussi le militantisme. Et on peut être à la fois dans ce militantisme de transformation dans une association comme dans une institution, parce que les deux ont pour point commun de créer de l'intérêt général et d'être désintéressé. Donc, c'est sûr que du coup, pour vous répondre, moi, mon souci, c'est plutôt le dimensionnement. On a des chiffres complètement dingues sur le nombre d'écoles, le nombre d'élèves, le nombre de périscolaires, le nombre d'associations. Et bien entendu, avec les mutations de la société, on a beaucoup de problématiques sur les interlocuteurs au niveau des parents. Maintenant, la norme, c'est le couple séparé avec enfant. Donc, on voit rarement les parents ensemble. Il y a plein d'histoires de rythme qui se reportent sur l'enfant derrière. On a bien sûr la dépendance au modèle de subvention. On a plein de sujets comme ça qui s'entremêlent. Et c'est une question qu'on se pose souvent avec certains collègues. C'est en fait, il vaut mieux être élu dans une ville de quelle taille ? Est-ce que c'est 200, 2000, 200 000 voilà. Mais en tout cas, la chance qu'on a à Strasbourg, c'est qu'historiquement, effectivement, on a un tissu associatif qui est très important, qui est très ancien, qui est très, très investi. Sans eux, on n'y arriverait pas. Actuellement, sur le Périsco à Strasbourg, la ville gère une partie et le milieu associatif en gère une autre. Chaque ville a son modèle, a son histoire. Nous, c'est cette dépendance et cette coopération avec le modèle associatif qui, actuellement, vit une phase de darwinisme parce que la crise de l'inflation, la crise du bénévolat, la crise de l'énergie, les crises des finances font que les gens sont démotivés. Il y a aussi tout ce qui a été très souvent mis en avant, la dépendance à la mise en concurrence, à l'appel d'offres. Je rappelle que l'éducation populaire, c'est la coopération, c'est la confiance. Et c'est aussi ça qu'on essaie de remettre en place avec nos acteurs par le biais de nos changements en fait, de normes et de contractualisation. On est sur, je le redis, ces conventions pluriannuelles où en fait, on est surtout sur la mise en place d'objectifs communs. On parle avancée, on parle projet et on ne parle pas gestion.
Pour revenir au BAFAB et AFD, on entend ces termes depuis tout à l'heure. Dans le reportage, on entendait Emma, une animatrice qui souhaitait évoluer professionnellement dans ce milieu. Alors Jean-Baptiste Cléricot, déjà j'aimerais revenir très succinctement sur ce qu'est le BAFA, le BAFD, mais bien sûr aussi voir ce qu'ils offrent comme débouché au-delà du poste, bien sûr, d'animateur ou de directeur.
Alors le BAFA et le BAFD, alors déjà c'est une spécificité française. Et c'est une bonne spécificité française. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un petit peu dans les autres pays européens du Nord, mais également du Sud, on se rend compte que les loisirs sont encadrés par les églises, les religieux, quelle que soit la religion après, à l'intérieur du pays. Et donc, en fait, lorsque les enfants sont confiés à des tiers autres que les parents pour faire des camps de vacances, des colos, une animation de proximité, etc. C'est la plupart du temps les églises. Donc on est loin de la transformation sociale, etc. On est dans une forme d'endoctrinement. Alors une endoctrinement douce, souple, mais on est dans une forme d'endoctrinement. Donc en France, on a dit non. En France, on a dit pour pouvoir s'occuper d'enfants, il faut qu'on respecte les principes de laïcité à la française, c'est-à-dire le respect de toutes les religions, et le respect aussi de ne pas croire et de pouvoir changer de religion. Et on s'est dit, il faut qu'on crée un brevet où on fasse, où on permette de garantir aux parents que lorsqu'ils confient leurs enfants à une colo, un centre aéré, à des personnes, elles ont été à minima formées pour pouvoir s'occuper d'eux en termes de sécurité, d'animation, de parcours pédagogique, de liberté, etc., etc., de créer des souvenirs, etc., etc. Donc le BAFA et le BAFD sont dans cette logique-là, c'est de permettre à des jeunes, la plupart du temps c'est des jeunes hein, qui passent le BAFA et le BFD, de se former pour pouvoir ensuite, après, aller s'occuper d'enfants. Et le BFD, c'est un peu plus tard, c'est d'être directeur de centre aéré ou de centre de vacances. Mais ce sont des diplômes. Tout à l'heure, je vous disais, c'est important qu'il y ait des bénévoles et des professionnels. Le BAFA et le BFD ne sont pas des diplômes professionnels. Donc le conseil que je donnerais à Emma, plutôt que de faire un BFD, c'est d'aller faire un diplôme professionnel. Un BPGEPS, un DEGEPS, donc c'est des diplômes de l'animation qui permettent de réellement se professionnaliser et de pouvoir devenir un réel professionnel de l'animation. Par contre, à l'intérieur d'un même centre aéré, d'une même colo, et c'est là où l'animation est très très riche, c'est qu'elle permet à l'intérieur d'un même cadre d'accueillir des volontaires et des professionnels.
Tout à l'heure, on entendait aussi qu'il y avait beaucoup de turnover à cause de la non-professionnalisation de l'animation. Guillaume Lipzig, c'est un problème auquel vous êtes confronté à Strasbourg ?
Oui, alors on a beaucoup de mal, hein, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, hein, l'éclatement horaire, le peu de reconnaissance des diplômes, le peu de rémunération, à ne serait-ce qu'avoir des personnes qui répondent à nos offres d'emploi. Nous, on creuse le sujet de plus en plus pour voir comment on peut faire évoluer par rapport aux situations qu'on décrit là depuis le début de notre entretien. On a un échange en ce moment avec l'Allemagne, où on essaie de voir un peu comment ça se passe chez eux. Bah, là-bas, c'est des diplômes, ça prend 3 ans de formation, et on a des vrais professionnels qui œuvrent ensuite pendant plusieurs années, quoi. Donc, on essaie vraiment un peu de faire évoluer les choses, mais comme je le disais, l'ensemble des villes concernées, et elles le sont toutes, ne peut rien faire parce qu'on dépend de textes qui sont pensés au national dans un cadre global, et c'est en fait un mouvement d'ampleur qu'il nous faudrait pour faire évoluer les choses. Ce mouvement va sans doute arriver parce qu'on arrive à un point de rupture, et je pense que les parents à un moment vont aussi prendre conscience de ce qui se passe et de ce qu'il faut pour que leur enfant aille bien. Et j'espère qu'effectivement, dans le tumulte actuel, quelque chose de positif pourra sortir grâce à toutes les propositions qu'on doit porter.
Merci Guillaume Lipzig. Alors je rappelle, vous êtes adjoint à la mairie de Strasbourg en charge de la vie associative, les animations urbaines et la vie étudiante, et aussi conseiller eurométropolitain à l'Eurométropole de Strasbourg. Et merci aussi à vous Jean-Baptiste Cléricot. Je rappelle que vous êtes coprésident du CNAGEP et directeur général France des CMEA, les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active.
Et c'est ainsi que s'achève cette émission. On vous laisse en bonne compagnie sur Radio Campus Paris.